Vous êtes avec SBS French. Comme chaque mardi, place à présent à l'actualité française. Pour nous en parler, nous sommes en ligne avec Émile Matasso. Bonjour à vous, Émile.
Bonjour Jean-Noël, bonjour à tous.
À la une, le changement d'heure, on est passé en France à l'heure d'hiver.
Oui, les Français en France métropolitaine ont gagné dans la nuit de samedi à dimanche une heure de sommeil. On a reculé sa montre d'une heure. Nous voilà à l'heure d'hiver pour 5 mois. Conséquence, eh bien, des journées où la nuit tombe très tôt, plus tôt. La luminosité qui va encore diminuer jusqu'au 21 décembre, début officiel de l'hiver, avec la nuit qui arrivera là vers 16h30 quand les enfants sortent de l'école. Rien d'exceptionnel en soi, ce changement d'heure, heure d'hiver, heure d'été. Il existe ce changement depuis plus de 40 ans. Il a été mis en place en 1976. L'idée à l'époque était de faire des économies d'énergie. On était en pleine crise pétrolière, le choc pétrolier, la hausse des prix des matières premières, du pétrole, de l'essence, chauffage, éclairage, en fonction de l'heure d'hiver et d'été. Cela pouvait avoir une incidence, mais le débat est toujours là des décennies plus tard, et quant à savoir si ce changement d'heure a vraiment un intérêt, eh bien, on trouve de moins en moins de personnes pour en être convaincues.
À tel point que normalement, il n'y aura plus de changement d'heure à partir de 2021.
C'est ce qui a été décidé, en effet, par l'Union européenne en mars dernier, suite à une proposition de la Commission européenne. Les députés européens à Strasbourg se sont prononcés pour la fin de cette gymnastique de l'horloge 2 fois par an, sachant que si la France l'a adopté en 1976, le changement d'heure, il s'est ensuite imposé, généralisé dans les années 80 à tous les pays membres de la communauté économique européenne, devenue ensuite Union européenne. Mais au fil des années, dans cette société devenue interconnectée, qui vit 24 heures sur 24, les motivations initiales d'économie d'énergie ne semblent plus vraiment résister à un décalage d'une heure entre l'hiver et l'été. Et on se dirige donc vers la fin du changement d'heure dans les pays de l'Union européenne. Il y a eu ce vote des députés européen en mars dernier, et c'est là tout le principe. L'Union européenne, certaines de ses décisions s'imposent aux États. Il y a donc la volonté d'harmoniser à l'échelle européenne cette question de l'alignement de l'heure. Mais il y aura toujours, lors de la mise en application de cette décision, des complications. Les eurodéputés, en effet, ont précisé que si 2021 allait être la dernière année où les États changeront d'heure, le Parlement de Strasbourg a précisé également, je cite, que les États membres garderont le droit de décider de leur fuseau horaire, c'est-à-dire que chaque pays pourra décider s'il reste définitivement sur l'heure d'été ou sur l'heure d'hiver. Chaque État aura cette liberté. Imaginez donc le pataquès en perspective, avec certains États qui vont décider de rester sur l'heure d'été et d'autres qui pourraient bien décider de rester sur l'heure d'hiver, ou inversement, s'il n'y a pas d'harmonisation d'imposer à l'échelle de tous les pays membres de l'Union européenne. On aura donc probablement 2 groupes de pays, ceux alignés sur l'heure d'été, ceux alignés sur l'heure d'hiver, sachant que l'approche n'est pas forcément la même selon que vous vivez dans les pays du sud de l'Europe ou dans ceux du nord de l'Europe. A-t-on le même intérêt, heure d'hiver, heure d'été, entre le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la France, ou des pays comme la Suède, la Norvège, la Finlande, la Slovénie, la Lituanie, la Slovaquie, oui, c'est un sacré casse-tête que ce changement d'heure. En tout cas, en ce moment, ce qui est sûr, c'est que pour les 5 prochains mois, il y a bien 10 heures d'écart entre la France et l'Australie. Et il paraît même que vous êtes down under, un petit peu en avance. Il est plus tard chez vous.
On en parle également, la campagne pour les élections municipales qui fait rage à Paris.
Oui, ces élections municipales de mars prochain, la campagne officielle n'a pas encore commencé, mais les candidats, ou du moins ceux qui se sont déjà déclarés, battent le pavé à Paris. C'est le cas notamment de Benjamin Griveaux et de Cédric Villani, qui incarnent tous les deux la Macronie. Le président Emmanuel Macron, son parti, il voulait être le candidat, tous les deux, de La République En Marche, le parti présidentiel, mais il n'y avait qu'une place. Il a donc fallu organiser une primaire en juillet dernier. C'est Benjamin Griveaux qui l'a remporté, Mais Cédric Villani, mathématicien de renom, n'a pas abdiqué. Est-il mauvais perdant? En tout cas, il est candidat. Lui aussi, Cédric Villani, il s'est lancé en électron libre. Les deux hommes ont l'ambition de déloger Anne Hidalgo, la maire socialiste élue en 2014, qui n'a pas encore officialisé sa candidature, mais qui se prépare en coulisses pour se représenter. Benjamin Griveaux, Cédric Villani, en tout cas, eh bien, ils essaient de prendre les devants. Ils arpentent les rues de Paris, vous les croisez l'un et l'autre sur les marchés le week-end. Benjamin Griveaux a pris le parti de défendre les classes moyennes, comme il dit. Hein, c'est son combat. Je ne veux pas que Paris devienne uniquement la ville des riches, dit-il, des bobos, des touristes et des pauvres. Ce grand écart entre les bourgeois d'un côté et la misère de l'autre. Il veut, Benjamin Griveaux, s'adresser à cette classe moyenne, ces gens, explique-t-il, qui gagnent parfois à 2 à 5 000 euros par mois et que les prix du logement obligent à quitter Paris. Cédric Villani, lui, arrive pour l'instant en troisième position dans les sondages, derrière Benjamin Griveaux et derrière Anne Hidalgo, qui a une longueur d'avance sur les deux hommes quand on regarde les projections de ces municipales pour le premier tour. Cédric Villani, lui, parle de son marathon. Une ville, Paris, se conquiert rue par rue, a-t-il lancé. Le mathématicien s'est donné comme objectif d'ici l'élection eh bien, de faire 2 déplacements par jour dans Paris, ce qui doit lui permettre, d'ici le mois de mars, eh bien, de revenir successivement tous les 10 jours dans un même arrondissement. Car la ville de Paris, oui, elle compte 20 arrondissements et chacun a son identité, sa population, ses habitudes, sa vie de quartier. Un Paris qui est complètement différent que vous trouviez dans les 15e, 16e arrondissements, dans l'ouest de la capitale, les arrondissements les plus huppés, ou bien dans le 18e, dans le nord, dans le 19e arrondissement, le nord-est de Paris, là, entre Porte de la Chapelle ou les rues de Belleville, des quartiers bien plus populaire. Benjamin Griveaux, Cédric Villani, le match est lancé. On les verra peut-être cette semaine dans les travées du Palais Omnisport de Paris-Bercy, le POPB, et ses 15 000 places. Paris-Bercy, le tournoi de tennis, bien entendu, le Masters 1000 avec tous les ténors qui sont là, Novak Djokovic, Rafael Nadal, Daniil Medvedev, mais aussi le jeune prodige grec, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, l'allemand Dominic Thiem, j'en passe, l'autrichien, sans oublier les Français de service qui ont souvent l'habitude de briller à Bercy. En tout cas, l'automne est là, on a changé d'heure, on l'a dit, les feuilles tombent, il commence à faire froid, mais il y a du spectacle au POPB Paris-Bercy, ce tournoi qui existe depuis 1986. À l'époque, c'est l'allemand Boris Becker, boum boum, qui s'était imposé en 86. Et figurez-vous qu'aucun Australien n'a gagné le tournoi. Oui, on a vu Marc Philippoussis en finale en 2000, Leighton Hewitt, alors qu'il était au sommet en 2002, mais ils avaient été battus tous les deux en finale, Marc Philippoussis et Leighton Hewitt, par Marat Safin, le russe, l'un des princes de Bercy à l'époque, Marat Safin, une époque où la finale se jouait encore au meilleur des 5-7.
Merci Émile pour avoir décrypté l'actualité française. Bonne journée, à bientôt.
Merci, à bientôt.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.